France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et tous, entendez-vous l'écho en version hebdomadaire? C'est désormais deux rendez-vous en un. Une première partie qui est consacrée à une question qui fait l'actualité, y compris celle de la recherche. Aujourd'hui, nous nous demanderons ce que l'intelligence artificielle fait au travail, puis retour sur un grand moment de l'histoire de la pensée économique qui éclaire nos enjeux contemporains. Nous poursuivons notre série consacrée aux économistes face à la guerre. Et pour ce deuxième épisode, c'est à la figure de Rosa Luxembourg que nous nous intéresserons et à cette vaste question des dénoncer les dépenses militaires, est-ce lutter contre le capitalisme? Mais pour commencer, donc, plonger dans le monde des entrepreneurs de l'intelligence artificielle.
C'est une aide, et c'est une aide qui va nous rendre plus efficace, plus productif, et nous concentrer sur justement les tâches où on est capable de faire des choses en utilisant notre capacité de créativité, d'invention. Et ça, c'est super important.
Au travail, ça veut dire que vous allez pouvoir préparer des documents pour aller vendre des choses à vos clients. Ça va vous permettre de réfléchir à la stratégie, d'avoir un partenaire, une muse qui peut échanger avec vous et vous donner des pistes d'exploration.
C'est important parce que les entreprises qui vont utiliser ces technologies iront plus vite, seront plus compétitives que les autres. Donc on a besoin en France que les entreprises adoptent et en même temps adoptent ces usages, ces technologies d'IA. Et en même temps, il faut le faire dans un environnement de confiance.
Ça a commencé, je pense qu'il y a quelques années. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les travailleurs qui l'utilisent au quotidien, ils gagnent plusieurs heures par jour pour régler les tâches qui sont pas forcément les tâches les plus intéressantes, mais qu'ils arrivent à faire plus vite.
Cette année, l'IA prendra réellement vie de plusieurs façons. D'abord, elle va changer notre manière de travailler, de vivre, d'apprendre et de nous divertir. Aucune technologie depuis Internet n'a eu de portée et d'application aussi large. Sur bien des points, c'est similaire, mais là où ça diffère, c'est que ça va avancer 5 fois plus vite, avec 3 fois plus de résultats.
Ils sont enthousiastes, les Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad, et Arthur Mensch, cofondateur de Mistral, et les Christelle Heidmann à la tête du groupe Orange, ou encore John Chambers, l'ancien PDG de Cisco Systems. Ils y croient. L'intelligence artificielle est une promesse d'efficacité, une aide, un progrès donc, mais pour qui? C'est ce que se demande Juan Sébastien Carbonel dans son ouvrage Un Taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle qui vient de paraître aux éditions Amsterdam et qui rappelle que l'introduction de la technologie dans le monde du travail reste d'abord et avant tout un choix et non une fatalité. Toute la question est maintenant de savoir pourquoi elle est pourtant présentée comme un processus relativement naturel, une marche vers le progrès. Et la réponse se trouve dans l'analyse précise de ce que fait réellement l'IA au travail. Alors pourquoi un tel sujet? Tout d'abord, il y avait l'envie, bien évidemment, d'entendre ce que Juan Sébastien Carbonel a à nous dire sur les évolutions du monde du travail, dont il est un fin observateur. Nous l'avions reçu ici à Entendez-vous l'écho, à l'époque où il sortait son ouvrage Le futur du travail, puis à nouveau en octobre dernier pour évoquer cette fois la figure d'Harry Braverman, figure que l'on retrouve d'ailleurs dans les pages du livre qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis lorsque j'ai parlé de cette réunion en réunion des producteurs qui se tient tous les mardis à France Culture, voilà, comme ça vous le savez, mon collègue François Saltiel, que vous retrouvez tous les vendredis à 14h, a tout de suite rebondi avec le livre en main. S'en est suivie une très vaste conversation sur l'IA et son rôle au sein de Radio France, dont je vous passe les détails. Et enfin, un autre collègue, Quentin Levan, m'a raconté avoir mené une enquête fouillée sur le sujet. Bref, une hype, un enthousiasme éteigné comme souvent lorsque l'on parle d'IA, l'objet qui reste mal identifié malgré son âge avancé, 1956, hein, je le rappelle, la date de naissance présumée de l'IA, et malgré sa très grande présence dans les discours. L'IA donc fascine, interroge, enthousiasme ou inquiète. Or, cette hype est précisément la clé de voûte de l'analyse de Juan Sébastien Carbonel qui a cherché à montrer qu'elle était au cœur d'une économie de la promesse propre au progrès technologique. S'il y a emballement, ce n'est pas un hasard, de la même façon que l'IA n'est pas un outil neutre. Son élaboration et sa diffusion répondent à des intérêts économiques spécifiques, d'où le propos de son ouvrage. Et si plutôt que de s'intéresser à la technologie en elle-même, des bride machines du 19e siècle à la surveillance algorithmique d'aujourd'hui, ce ne sont pas plutôt les stratégies des employeurs qu'il conviendrait d'analyser? C'est donc la question que nous allons vous poser, Juan Sébastien Carbonel. Bonjour à vous et soyez le bienvenu.
Bonjour.
Juan Sébastien Carbonel, vous êtes chercheur postdoctorant à l'Université de Liège, au laboratoire Pragmapolis. Vous êtes sociologue du travail, je le disais, mais vous n'êtes pas un expert de l'IA, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. Alors pourquoi avoir décidé de vous pencher sur ce sujet de l'IA, justement?
Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Oui, en effet, comme je vous avais dit, je ne suis pas un expert de l'IA, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être mécanicien automobile pour pouvoir parler de la place de l'automobile aujourd'hui dans la société. Et j'ai voulu utiliser l'intelligence artificielle comme une excuse ou comme comme une raison pour pouvoir parler de façon plus générale sur les effets des nouvelles technologies sur le travail. Et je crois que c'est une technologie qui incarne assez bien à la fois les effets des nouvelles technologies sur le travail, donc on décrira tout à l'heure, mais aussi les logiques plutôt d'ordre économique qui poussent en fait les employeurs à adopter ces technologies-là et à les rendre ou à plutôt à les présenter comme nécessaires et ou inévitables.
Cela dit, et vous le dites dès les premières pages de votre ouvrage, dès l'introduction, vous ne vous contentez pas de décrire finalement les effets des nouvelles technologies sur le travail, vous adoptez une posture critique, hein, qui est même là, dès le titre de votre ouvrage, un critique de l'intelligence artificielle. Et vous le dites, votre ouvrage est un appel, une contribution à organiser la résistance. Alors pourquoi, Juan-Sébastien Carbonel, pourquoi organiser cette résistance? Est-ce que c'est en raison de choses que vous auriez pu voir, notamment en tant que sociologue sur le terrain? Pourquoi il y avait cette nécessité, finalement, d'organiser cette résistance, selon vous?
L'ouvrage s'ouvre par une citation d'un historien qui m'est très cher, que je cite aussi très régulièrement, qui s'appelle David Noble, qui est un historien des techniques. Et il dit qu'une guerre fait rage, mais un seul camp est armé. Et c'est ainsi qu'on peut résumer la question de la technologie aujourd'hui. Et donc cet ouvrage vise à armer l'autre camp, qui est bien sûr le camp des travailleuses, des travailleurs, mais aussi des populations et des dominés en général, qui... face à la technologie, sont souvent désarmés parce qu'ils et elles adoptent une posture réactive, bien souvent, au lieu de justement avoir une position ferme sur la question de la technologie qui consisterait à la fois à refuser certaines technologies qui sont néfastes pour le travail, l'environnement, mais aussi à penser la question des alternatives technologiques. Et cet ouvrage s'adresse en grande partie aussi aux militants syndicaux qui... justement, dans les entreprises, sont souvent dans cette position réactive face au changement technologique au travail.
Et que faites-vous, Juan-Sébastien Carbonel, des accusations qui pourraient jaillir face à cette position-là, face à l'IA, des accusations notamment de techno-obscurantisme ou en tout cas d'adopter une posture qui reviendrait à nier quelque part aussi les progrès possibles et potentiels apportés par l'IA?
Oui, ce que j'essaie de rappeler dans l'ouvrage, c'est que le progrès pour certains, notamment pour, ce qui est présenté comme le progrès de façon universelle et unilatérale, est en réalité un progrès pour certains. Et en réalité, c'est un regret, ou plutôt c'est une régression pour d'autres. Et j'essaie justement de rappeler que il faut se débarrasser de ces illusions technophiles héritées du passé, qui sont justement cette idée que la technologie serait forcément meilleure et que, voire même dans le mouvement syndical, dans le mouvement ouvrier ou encore dans le mouvement socialiste, les problèmes de la technologie se débarrasseraient ou on serait débarrassé des problèmes de la technologie une fois qu'on se sera débarrassé du capitalisme, de la propriété moyenne de la propriété privée des moyens de production, etc. Et j'essaie de rappeler que la question est beaucoup plus compliquée que ça. Et c'est un appel justement à ce que le monde du travail, les syndicats principalement, se saisissent de la question technologique en ayant aussi des alternatives technologiques à proposer.
Donc si on vous comprend bien, l'obscurantisme serait plutôt celui qui consisterait à croire les promesses ou en tout cas ne pas s'interroger sur l'origine de ces promesses technologiques et ne pas remonter aux sources, on va dire, aussi des discours qui les portent, ces progrès technologiques. Là, si on en vient directement à ce que fait l'IA au travail et qui nous nourrit aussi toute votre réflexion et qui nourrit donc cet appel à la résistance. Vous dites que deux approches sont en général adoptées, c'est un peu deux scénarios si on peut dire. Le premier, c'est celui d'une augmentation de la qualification de travail, c'est la logique suivante, c'est-à-dire que si l'IA, l'intelligence artificielle, est introduite au travail, il va falloir un niveau de qualification qui permet de s'en saisir, de l'utiliser de la façon la plus efficace entre guillemets possible. Et l'autre scénario, c'est celui d'une polarisation, c'est-à-dire qu'en supprimant les tâches répétitives, routinières, toutes les professions intermédiaires, toutes les professions peu qualifiées vont être amenées à disparaître. Et pourtant, pour vous, Juan-Sébastien Carbonel, aucun de ces deux scénarios n'est pertinent ou n'a de sens. Alors, une question, que fait selon vous l'IA au travail?
C'est une très vaste question. J'essaie de, là encore, comme je l'ai dit, de prendre l'IA comme un exemple des effets d'une nouvelle technologie sur le travail. Bien sûr, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a des effets différenciés selon le contexte institutionnel et aussi selon le processus de travail lui-même. Évidemment, les effets de l'IA dans le métier de journaliste que j'étudie ou encore le métier de traductrice ou de traducteur n'est pas le même que les effets de l'IA sur, par exemple, le préparateur de commandes dans un entrepôt de la logistique. Mais j'essaie quand même de tirer quelques quelques ficelles, quelques traits généraux, j'essaie de monter un peu en généralité sur les effets des nouvelles technologies, ou plutôt de l'IA sur le travail. Alors, vous avez cité qu'il y a deux positions que l'on entend souvent dès lors qu'on parle de changement technologique au travail. Il y a la première qui est une position plus ou moins du sens commun, voire même de sens commun savant, c'est-à-dire une position qui est souvent présente dans la bouche de hommes et femmes politiques qui disent « ne vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle, c'est très bien parce que ça va augmenter les qualifications des salariés, il faut juste que l'on élabore des politiques de formation de la main-d'œuvre. » Et donc, il n'y aurait que des gagnants. Et l'autre position, c'est une position plus subtile, bien sûr, qui est très respectable, qui est celle de l'économie mainstream, qui est celle que l'on trouve aujourd'hui dans la bouche dans les travaux notamment d'auteurs comme le prix de la Banque de Suède d'Aaron Acemoglu ou encore en France Philippe Aguillon. C'est la théorie du routine biased technological change, qui consiste à dire que les effets des nouvelles technologies aujourd'hui au travail, les effets consistent principalement à produire une polarisation des métiers. Donc il y aurait des gagnants et il y aurait des perdants. Donc c'est une position un tout petit peu plus subtile, plus intéressante, mais là encore ça ne me satisfait pas, et c'est là où j'en viens à la question du taylorisme, en disant qu'il n'y a pas de métier suffisamment qualifié, il n'y a pas de tâche suffisamment complexe pour qu'elle ne puisse pas être taylorisée.
On va revenir sur ce taylorisme et surtout sur ce taylorisme augmenté, hein, parce que je le rappelle, c'est le titre de votre ouvrage et c'est ainsi aussi que vous qualifiez l'intelligence artificielle. Cela dit, Juan-Sébastien Carbonel, on peut s'interroger. Finalement, on a l'impression que tout le monde s'est fourvoyé, ou en tout cas une grande majorité des commentateurs, économistes, etc., se sont fourvoyés en adoptant ces deux scénarios d'une façon ou d'une autre, alors en prenant en compte un certain nombre de critiques, mais tout de même en restant à ces deux analyses qui ont largement infusé dans le discours médiatique entre autres, mais il y a une raison à cela, et vous le dites d'ailleurs, c'est que ces scénarios-là, ils sont liés à cette fameuse routine-based technological change, mais parce que c'est une vision dominante, est-ce que finalement il nous manque des outils d'analyse qui ne soient pas dominants, ou en tout cas les outils de dominance sont-ils devenus obsolètes? Est-ce que la science même du management, la science économique chargée d'étudier les relations au travail, ou même la sociologie, sont dépassées finalement par l'événement?
Je ne sais pas si les sciences sociales, ou qui incluent bien sûr l'économie, sont dépassées par l'événement, mais un des avantages, en tout cas de la sociologie, c'est qu'elle a le mérite de faire des enquêtes de terrain qui essayent de voir au plus près justement les effets des nouvelles technologies au travail. Et là où soit des managers, soit des journalistes, soit des politiciens voient justement que des avantages, bien sûr conditionnels, mais des avantages malgré tout au changement technologique au travail, il est plus intéressant de voir concrètement ce que les salariés eux-mêmes et elles-mêmes voient dans leurs conditions de travail se modifier à partir des enquêtes de terrain comme peut le faire la sociologie aujourd'hui. Et c'est quelque chose que rien d'autre ne peut changer. Et par exemple, les thèses ou les travaux de Routine Biased Technological Change sont des enquêtes certes très intéressantes, mais pour la plupart sont quantitatives. Et la plupart des critiques qui s'adressent à cette thèse de la polarisation viennent notamment d'enquêtes qualitatives qui mettent notamment en évidence justement la complexité des effets des nouvelles technologies au travail.
Elles sont quantitatives et puis elles ont tendance aussi, et c'est ce que vous dites, à occulter les rapports de domination et les rapports aussi de stratégie au sein de secteurs spécifiques, parfois de pays aussi spécifiques, mais en tout cas elles ne prennent pas en compte l'idée que voilà, il y a des stratégies de profit propres aux entreprises qui ont aussi un rôle à jouer. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret finalement dont la stratégie d'une entreprise peut jouer sur le choix ou non d'implémenter de l'IA par exemple au sein d'une chaîne de travail ou au sein d'une routine de travail? Vous citez notamment l'exemple de l'automobile où on se rend compte que parce que l'automobile doit être compétitive, finalement, il y a le choix de ne pas remplacer, entre guillemets, certains ouvriers ou ouvrières parce que c'est une façon aussi de se démarquer de la concurrence.
Oui, oui, non, absolument. Enfin, comment dire, les choix technologiques dans les entreprises, c'est ce que j'essaie de dire non seulement dans l'ouvrage, mais plus généralement dans mes propres recherches, et comme vous l'avez dit, déterminé non seulement par le fait qu'une nouvelle technologie arriverait et aurait un effet de disruption ou quelque chose de ce style-là, mais aussi informé très fortement par la stratégie économique de l'entreprise. Je prends un exemple, là, justement, d'une recherche qu'on mène avec des collègues. Moi, je m'intéresse aux effets de la nouvelle technologie sur le travail dans l'industrie automobile. Et dans l'industrie automobile, ville, on observe très clairement ce taylorisme augmenté, c'est-à-dire déqualification, parcellisation, intensification du travail. Les ouvriers se consacrent davantage aux gestes à valeur ajoutée, qui sont les gestes de montage, etc. En même temps que les tâches moins valorisées, à faible valeur ajoutée, sont prises en charge par des robots, voire délocalisées à l'étranger. Ça, c'est d'un côté. Mais si l'on considère une autre industrie automobile comme l'allemande ou l'autrichienne, où ce sont des produits à haute valeur ajoutée qui sont fabriqués, là, les stratégies des entreprises vont être différentes. Cette fois-ci, la technologie aura un effet un tout petit peu différent, qui sera cette fois-ci de respecter jusqu'à un certain point la qualification des salariés, mais aussi parce qu'il y a des institutions de représentation du personnel qui vont, là encore, avoir un rapport de force suffisant pour pouvoir influencer le choix technologique des entreprises. Donc, pour revenir un peu sur la question initiale, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, et à partir de l'exemple que je viens de citer, c'est que il n'y a pas de déterminisme technologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un effet unilatéral d'une nouvelle technologie sur le travail, que ce soit de qualification. Et sur la question de la déqualification, là encore, il y a beaucoup de nuances à apporter, même à ce que je dis dans l'ouvrage, mais dans le sens d'une variation institutionnelle importante.
Je voudrais juste, Rod-Sébastien Carbonel, qu'on revienne sur ce terme de taylorisme augmenté que vous venez d'employer, parce qu'on a dit ce que l'IA ne faisait pas forcément au travail, il faut bien revenir sur ce qu'elle fait au travail. Et vous avez cité finalement deux exemples assez intéressants, celui du monde des traducteurs, traductrices, que vous citez dans votre ouvrage, et puis celui finalement qu'on appréhende aussi très bien de façon très concrète, celui du monde des ouvriers, ouvrières, notamment à la chaîne dans le cadre de l'industrie automobile. On pourrait dire finalement quelles sont les logiques qui rassemblent ces deux secteurs-là, et ça passe vraiment par cette question de la simplification des tâches. Alors en quoi l'IA accélère justement cette base du taylorisme qui est la simplification et donc la perte de contrôle de celles et ceux qui exercent leur métier?
J'ai dit à l'instant qu'en effet, il y a des variations selon le contexte institutionnel, le marché, le produit, etc. Mais en effet, un des objectifs de l'ouvrage, c'est vraiment de trouver des points en commun à tous ces métiers. Et c'est là où l'on vient à la question du taylorisme augmenté. C'est-à-dire que l'on soit journaliste, que l'on soit traducteur ou traductrice, que l'on soit ouvrière, préparateur de commandes, ouvrier, monteur dans l'industrie automobile, justement, l'esprit du capitalisme, en quelque sorte, reste le taylorisme, c'est-à-dire cette volonté de parcelliser le travail, de séparer conception et exécution, que l'employeur s'arroge le monopole de l'organisation du travail, de la décision, etc.
Dans une logique de domination.
Toujours dans une logique de domination, bien sûr. On pourrait pas dire, enfin, ça pourrait être un débat aussi. Est-ce que le taylorisme pourrait être émancipateur? Je pense pas. C'est un autre débat à part entière. Mais je pense pas, bien sûr, que le taylorisme puisse être émancipateur. Et donc, l'intelligence artificielle vient se greffer dans cette organisation taylorienne en approfondissant cette logique de dissociation entre conception et exécution, parcellisation des tâches, organisation du travail entre les mains de l'employeur. Et l'exemple que je donne, c'est celui des traductrices et des traducteurs, où le geste créatif du métier, qui est la production d'un output unique, qui est un texte traduit par une seule personne, parfois par plusieurs mains bien sûr, mais ce geste créatif disparaît et est dépossédé en quelque sorte, et c'est dans ce sens-là que je parle de dépossession machinique des traducteurs par l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas que les traducteurs disparaissent comme métier, mais leur travail est dégradé dans la mesure où ils se consacrent plutôt à la post-édition, c'est-à-dire à travailler directement sur le produit d'une intelligence artificielle, à corriger toutes les coquilles, les faux sens, enfin toutes les erreurs produites par une intelligence artificielle. Et un des effets les plus importants, qui est surtout signalé par les organisations professionnelles de traductrices et de traducteurs, c'est aussi la baisse des tarifs. Et ça, c'est un des effets les plus importants de cette taylorisation, puisque si on divise le travail et on attribue ces tâches partielles à des ouvriers partiels, ben en fait, le salaire lui-même va être aussi partiel, en quelque sorte, va aussi baisser. C'est ce qu'on appelle l'effet de Babbage dans l'organisation du travail.
Et qui est un discours qui, de fait, se trouve justifié par la technique, par la technologie. Vous avez parlé de dépossession machinique, mais là, il faut insister sur un point très important, Juan-Sébastien Carbonel, et qui est très lié au premier chapitre de votre ouvrage, dont je recommande vraiment très vivement la lecture, parce que ce premier chapitre est très éclairant. Vous dites aussi que l'IA, ce n'est pas n'importe quelle technologie, c'est aussi une technologie qui est née d'un discours spécifique, qui est née dans un champ scientifique aussi très particulier, où l'approbation ne se fait pas forcément que entre pairs universitaires, chercheurs, chercheuses, mais aussi cette approbation vient du monde de l'entreprise. Tout cela a contribué à créer un discours autour de l'IA, et on en revient là finalement aussi au rôle de la stratégie des entreprises. Pourquoi cet effet de hype, pourquoi l'intérêt que l'on porte à l'IA joue aussi à contribuer à invisibiliser peut-être aussi ses effets sur le travail?
Oui, tout à fait. Enfin, quand j'ai écrit cet ouvrage, je voulais répondre à une question qui était restée en suspens dans le précédent. Parce que beaucoup de gens m'avaient posé la question de pourquoi est-ce que des gens s'acharnent à croire en la fin du travail? Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait qu'il y a des technologies qui vont produire des disruptions technologiques telles que le travail va disparaître, le chômage technologique de masse, etc. Et je n'avais pas la réponse à cette question. Mais en préparant cet ouvrage, j'ai trouvé la réponse dans justement cette idée des attentes technologiques ou des hypes technologiques. C'est-à-dire l'idée qu'on va créer des discours, de mettre en place des discours qui vont justifier, qui vont contribuer justement à invisibiliser les effets négatifs des technologies, qui vont aussi avoir pour objectif principalement de créer des marchés pour ces technologies-là, créer aussi de l'acceptabilité, de rendre ces technologies acceptables parce que nécessaires, parce que inévitables, et aussi, principalement, toujours en lien avec la création des marchés, attirer des financements.
C'est ça, elles sont performatives parce qu'elles savent qu'elles peuvent attirer les financements grâce à cette promesse aussi Exactement. D'efficacité au sein des entreprises.
Exactement. Si l'on présente votre technologie comme une disruption technologique majeure, si on la présente comme vraiment le nec plus ultra de ce qui se fait aujourd'hui en intelligence artificielle, ben en fait, évidemment, il y aura des investisseurs qui vont être très intéressés pour faire exister cette technologie-là. Et souvent, ces attentes technologiques précèdent la technologie elle-même. Souvent, c'est des sortes d'exagérations. C'est pas juste le fait d'individus malveillants qui voudraient mentir, mais en fait, elles sont nécessaires aussi à produire des technologies qui nécessitent d'investissements très importants. Et c'est le cas aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui nécessite des investissements très importants, notamment dans des infrastructures numériques.
Donc il faut bien qu'ils puissent mettre quelque chose sur la table, à savoir cette promesse aussi d'efficacité. On voit un peu comment tout cela se construit aussi par des effets de discours largement portés. Alors on a parlé au tout début de cet entretien de la notion de résistance. Vous avez mentionné notamment la présence et puis le rôle à jouer des syndicats. Juan Sebastián Carbonell, est-ce que vous seriez plutôt optimiste sur l'organisation de cette résistance, alors d'une part par les syndicats, mais aussi, on pourrait se dire, en termes de régulation européenne? On le rappelle, en 2023, la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait infligé une amende de 32 millions d'euros à une antenne française d'une multinationale américaine qui avait été mise en cause pour un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut se dire, bon, finalement, on est plutôt bien protégé en Europe?
Non. En Europe, ça dépend. Je voudrais partir du cas français dans le sens où on est à la fois... Enfin, disons, cette résistance est là... Elle a quelque chose à... Enfin, comment dire? Je reprends de le début. J'essaie de faire passer l'idée qu'il y a une fenêtre de tir avec l'intelligence artificielle pour de nouveau politiser la question de la technologie en entreprise. C'est-à-dire que les syndicats ont laissé un peu cette question de côté, s'intéressant davantage à la question des salaires, des conditions de travail, bien sûr, mais pas en traitant spécifiquement de l'action de la technologie.
Ce qui, par ailleurs, est un peu curieux, parce qu'on pourrait se dire, si on prend l'exemple des bris de machines, comme je le disais au 19e siècle, là, il y avait une résistance très clairement affichée. Absolument. C'est moins le cas aujourd'hui.
Ouais. Absolument. Et en quelque sorte, on pourrait dire, c'est ce que dit un historien que j'aime beaucoup, François Jarige, il dit qu'il y a eu une sorte de acculturation du mouvement ouvrier au changement technologique par les industrialistes, mais aussi auxquels ont contribué les socialistes eux-mêmes. Marx, il écrit des choses en disant que, bon, les ludites, évidemment, ils détruisaient des machines, mais ça serait mieux qu'ils s'en prennent aux patrons. Il y a une citation que je mets dans l'ouvrage de Jaurès qui dit, bien sûr, les ouvriers agricoles, ne sont pas contre les machines et il faut juste se débarrasser des propriétaires terriens. Donc, il y a cette idée que la technologie n'est pas au cœur du problème. On pourrait la laisser pour plus tard, une fois qu'on aura atteint le socialisme, etc. etc. Et moi, j'essaie de faire le chemin inverse, de profiter de cette fenêtre de tir ouverte par la polémique autour de l'intelligence artificielle pour dire que, non, en fait, il faut que les syndicats se saisissent de la question de la technologie aujourd'hui.
Et le message est bien passé, c'est un message que vous développez dans votre ouvrage, Juan Sebastián Carbonell, ouvrage dont je rappelle le titre, Un taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle, paru aux éditions Amsterdam le 5 septembre dernier. Et je précise que vous avez également rédigé la postface de l'essai Sur les machines de Karl Marx, apparaître le 17 septembre chez Payot.
France Culture.
Cette guerre, nous la faisons pour défendre notre liberté, pour rendre leur liberté à trois nations opprimées. C'est cette liberté que vous défendez en souscrivant au bon d'armement.
Entendez-vous l'écho ?
L'insuffisance de la main-d'œuvre, la médiocrité de l'outillage, le défaut de capitaux, la bataille pour la reprise économique est dès maintenant engagée.
Aliatovin.
Et pourquoi cette brusque progression, cet immense effort vers le progrès? C'est que l'électronique est devenue un élément déterminant de la défense des États.
La théorie libérale bourgeoise n'envisage que l'aspect unique de la concurrence pacifique, des merveilles de la technique et de l'échange pur de marchandises. Elle sépare le domaine économique du capital de l'autre aspect, celui des coups de force, considérés comme des incidents plus ou moins fortuits de la politique extérieure. En réalité, la violence politique est, elle aussi, l'instrument et le véhicule du processus économique. La carrière historique du capital ne peut être appréciée qu'en fonction de ces deux aspects. Le capital n'est pas, qu'à sa naissance, dégouttant de sang et de boue par tous les pores, mais pendant toute sa marche à travers le monde, c'est ainsi qu'il prépare, dans des convulsions toujours plus violentes, son propre effondrement. Pour l'autrice de ces lignes, le capitalisme ne peut se concevoir sans développer une pensée de la violence et de la guerre. C'est l'apport majeur de la militante et théoricienne marxiste Rosa Luxembourg, qui relie et reprend Marx à l'aune des conflits qui émaillent le premier quart du XXe siècle. Pour elle, le militarisme, et donc les dépenses militaires qui lui sont liées, sont une sorte de soupape de décompression pour un capitalisme confronté à un mal qui lui est propre, celui de la surproduction. Soutenir donc la production militaire, c'est soutenir tout un système qui ne peut survivre sans conflit et prédation. Et c'est une pensée qui trouve un certain écho alors que les puissances européennes augmentent leur budget de défense et par la même soutiennent tout un pan de leurs industries nationales. Nous poursuivons donc notre série consacrée aux économistes face à la guerre et après les libéraux. Place donc aujourd'hui à la pensée marxiste de Rosa Luxembourg, dans laquelle nous entraîne notre invitée Mylène Gollard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Grenoble-Alpes et je précise que vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Rennes. Un grand merci à Ferdinand Prévost qui assure la liaison aujourd'hui.
En tout état de cause, nous refusons que ce réarmement passe par l'endettement. Notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière. Il sera donc financé par plus d'activité et plus de production. Le salut de la patrie suppose que nous dépensions plus pour notre défense et que chacun prenne sa part de cet investissement. Et que nous veillions à la souveraineté financière de notre nation qui passe par des réformes, des transformations et plus de production. Cet effort ne sera pas sans gain au demeurant pour la nation et les dépenses militaires sont et seront aussi source de richesse pour notre produit intérieur brut, notre économie et nos territoires. Car cet effort devra aussi être celui de nos industriels et je le sais, c'est leur motivation, leur credo, mais ils devront porter aux côtés de nos armées ce patriotisme. Ils devront produire encore davantage, plus vite, à moindre coût. La DGA y veillera strictement. Et ils continueront aussi de privilégier nos territoires pour des capacités nouvelles, des sites de production nouveaux, comme nous l'avons vu ensemble il y a quelques mois encore à Bergerac.
Alors la question se pose comme toujours, pourquoi un tel sujet? Pourquoi revenir à la pensée marxiste qu'on pourrait penser dépassée ou peu ancrée politiquement aujourd'hui, peu représentative? Or Mylène Gollard, lorsque l'on entend cet extrait du discours aux armées prononcé par Emmanuel Macron à la veille de la fête nationale, c'était donc le 13 juillet dernier, durant lequel il avait annoncé 3,5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour la défense en 2026 et 3 milliards d'euros en 2027. Est-ce qu'on peut se dire, Mylène Gollard, que quelque part cette vision marxiste telle que la défense, entre autres Rosa Luxembourg, est toujours d'actualité?
Oui, effectivement, c'est que la vision marxiste, comme vous le dites, étudie les crises depuis un certain temps maintenant et les ralentissements économiques. Et là, même si aujourd'hui, c'est mis de côté, globalement, on a comme un ralentissement qui est assez conséquent depuis une cinquantaine d'années, qui s'accentue depuis 20 ans, et je ne vous parle pas des cinq dernières années. Donc cette analyse marxiste donc explique ces ralentissements économiques et explique comment le capitalisme essaye de les résoudre, notamment donc par le biais des dépenses militaires, par le biais de l'impérialisme et donc d'éléments dans ce genre.
Donc quand on entend Emmanuel Macron annoncer effectivement mettre des milliards sur la table, mais que cela va profiter à l'ensemble de l'économie nationale et profiter aussi à un échelon très local, hein, on l'entendait, ce sont des industries aussi qui sont très, très situées, finalement, ce discours, il répond plutôt bien à la façon dont les marxistes avaient envisagé le problème, entre guillemets, de la guerre, ou en tout cas des dépenses militaires. Ce sont des dépenses qui sont faites, au final, pour servir, encore une fois, de soupape de décompression, ou en tout cas d'échappatoire, peut-être, au capitalisme, on pourrait le formuler comme ça.
Oui, effectivement, pas tous les marxistes, mais au moins depuis Rosa Luxembourg, enfin en passant par Paul Baran et Paul Sweezy aux États-Unis dans les années 60, on a quelques marxistes qui ont effectivement étudié ces dépenses militaires comme soupape, effectivement, pour lutter contre la surproduction et pour relancer l'activité économique. Mais encore une fois, j'insiste, et on le reverra sûrement sur le court terme, sur le moyen long terme. Donc tous ces économistes expliquent que c'est clairement pas durable.
Vous l'avez dit, pas tous les marxistes, et c'est important de le préciser. Mylène Gollard, je le disais, on est au deuxième épisode de notre série consacrée aux économistes face à la guerre. La semaine dernière, nous recevions Fanny Coulon pour nous parler du point de vue des libéraux. Fanny Coulon nous disait que voilà, les libéraux, eux, ne s'intéressent pas tellement à la guerre. On va dire que c'est pas un objet qui se situe au cœur de leur analyse théorique. C'est plutôt voilà, un choc exogène dont ils font avec, mais ce n'est pas vraiment voilà, quelque chose qui rentre dans leur matrice, on va dire. Est-ce que c'est davantage le cas des marxistes, ou en tout cas de Karl Marx, pour commencer par le commencement? Est-ce que Marx se saisit davantage de la guerre et a fortiori à l'échelon international? Est-ce que ça, ce sont des questions dont il se saisit pleinement?
En fait, l'originalité des marxistes, et surtout de Marx en l'occurrence, là, c'est plutôt travailler sur les crises économiques. Donc Marx a étudié donc les problèmes de surproduction, les problèmes de baisse du taux de profit dans l'appareil productif, sauf qu'il a évolué à une époque où on était à l'apogée du capitalisme, hein, là où tout allait plutôt bien, donc à part la dégradation des conditions de vie liée à la révolution industrielle, évidemment. Mais Marx, finalement, a critiqué les conquêtes coloniales, notamment les guerres de l'opium, enfin en Chine, par le Royaume-Uni, la conquête de l'Inde, donc va beaucoup critiquer donc l'impérialisme, même si le terme impérialisme n'est pas utilisé, mais les conquêtes coloniales, mais il ne va pas forcément insister sur les dépenses militaires. Donc la question des dépenses militaires et du militarisme va vraiment naître effectivement dans les travaux de Rosa Luxembourg, donc en 1913, notamment dans l'accumulation du capital.
Oui, puis si on reste quelques instants sur Karl Marx, peut-être que davantage que les libéraux et leur fameuse idéal du commerce, Karl Marx, il envisage quand même, alors ce n'est pas la guerre à l'échelon international, c'est quand même une forme de violence, il le dit, hein, et puisque vous le disiez, il commente aussi les guerres qui se déroulent aussi sous ses yeux. Il dit de même qu'au XVIIIe siècle, la guerre d'indépendance américaine a sonné l'alarme pour les classes moyennes européennes. Au XIXe siècle, la guerre civile en Amérique a sonner l'alarme pour la classe ouvrière européenne. En Angleterre, ce processus de bouleversement peut être touché du doigt. Quand il sera parvenu à une certaine hauteur, il rejaillira sur le continent. Finalement, il y a quand même une pensée de la guerre chez Marx, mais qui est une guerre plutôt intestine, en tout cas une guerre de classe, littéralement.
Il n'y a pas un développement, enfin une analyse économique du rôle de la guerre et du militarisme, mais il y a une critique donc, de toutes les activités militaires et encore une fois des conquêtes coloniales qui sont au maximum au XIXe siècle, à son époque.
Et cette pensée-là, donc, se limite, on va dire, à cette pensée aussi d'une forme de guerre des classes. Il parle aussi des guerres comme des moments, on va dire, où l'industrie et donc les machines connaissent un nouvel essor, une forme de progrès, et on le sait, on vient d'en parler à l'instant, c'est pour ça que je fais le lien, mais on voit aussi le lien entre l'introduction des machines et leur perfectionnement, et puisque cela fait aussi à la classe ouvrière. Mais vous le disiez, Mylène Gollard, il faut attendre effectivement le regard de Rosa Luxembourg sur la théorie telle que Marx la développe, pour que vraiment cette question de la guerre et des relations internationales, quelque part, soit pleinement prise en compte. Alors il faut peut-être nous rappeler, Mylène Gollard, qui est Rosa Luxembourg. Vous lui avez consacré une partie de vos recherches. Elle est née en mars 1871, donc 12 ans après la mort de Marx, en mars 1883. Donc on ne peut pas franchement dire qu'ils se sont croisés. Quelle place occupe-t-elle dans la mouvance marxiste tout de suite après la mort de Marx? Quel est son statut précisément?
C'est qu'à l'origine, rien la prédestinait à rentrer dans le mouvement socialiste international. Donc elle est issue d'un milieu de commerçants juifs polonais, donc on est née en 1871, vous l'avez dit. Et rapidement, dans sa jeunesse, elle va donc s'introduire dans les milieux socialistes polonais. Et fondé très jeune avec l'un de ses camarades, le SDKPIL, donc qui est le parti socialiste polonais minoritaire, parce qu'on avait un parti polonais beaucoup plus important, dont a critiqué le nationalisme, et notamment le fait de vouloir se séparer de l'Empire russe. Donc pour elle, il fallait avoir mettre l'accent sur la lutte des classes davantage que sur une version nationaliste du parti. Et donc, elle va fonder le SD-Capil, donc ce parti socialiste du Royaume de Pologne et Lituanie. Et elle va progressivement donc s'intéresser à l'économie, faire une thèse d'économie donc à Zurich, donc sur le développement industriel donc de la Pologne. Et rejoindre par la suite le Parti socialiste social-démocrate allemand.
À une époque aussi où il faut revenir aussi sur quelques éléments de contexte historique, ce Parti social-démocrate allemand est aussi quelque part en forme de crise et Rosa Luxembourg va intervenir aussi dans ce contexte-là, là où elle va encore une fois affirmer une place un peu spécifique qui est la sienne.
Effectivement, donc la première position où va se démarquer Rosa Luxembourg sur cette question, c'est que donc au fin 19e début 20e dans le Parti social-démocrate allemand, donc on a un grand conflit notamment avec les écrits de Bernstein qui considèrent que le capitalisme finalement peut se réformer et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'y mettre fin de manière violente et que finalement tout va aller dans le meilleur des mondes, que finalement tout va s'arranger. Que Marx s'est un peu trompé sur la question des difficultés rencontrées par le capitalisme. Et donc c'est pour ça qu'elle va rédiger un ouvrage qui s'appelle « Réforme ou révolution ». 1905, où elle montre que non, que le capitalisme en lui-même génère des crises qui sont de plus en plus graves et qu'on peut pas, enfin, le réformer simplement de l'intérieur. Et donc pour elle, le Parti social-démocrate allemand doit impérativement donc conserver donc une ligne révolutionnaire et non réformiste. Donc pour cette raison-là justement.
Est-ce qu'on peut dire, Mylène Gollard, que Rosa Luxembourg lit ou relit Marx plutôt à l'aune aussi de cette volonté de dépasser ce que disait Bernstein et ce que vous nous expliquez à l'instant ? Est-ce que sa relecture de Marx va dans ce sens-là ? Elle va dans le sens de prouver qu'effectivement il ne peut pas y avoir une forme de réforme de l'intérieur ?
Bah, elle va dans le sens de Marx, c'est-à-dire que Marx, depuis le début, son objectif, c'est de montrer toutes les difficultés rencontrées par le mode de production capitaliste et de montrer que ces difficultés vont faire qu'à un moment, il n'y aura pas trop le choix que de mettre fin à ce système et de passer à un nouveau système économique du fait de toutes les crises économiques qui vont s'accentuer. Ouais. Et pour elle, donc c'est pour ça que c'est indispensable dans le sens de Marx de dépasser ce système.
Alors justement, pour bien comprendre la façon dont Rosa Luxembourg lit, relit, analyse à nouveau la pensée de Marx, vous l'avez dit, c'est en 1913 qu'elle publie une œuvre assez majeure, L'accumulation du capital. Alors là, il faut rentrer dans le détail et notamment en raison de cette pensée de la guerre aussi chez Rosa Luxembourg. Elle reprend finalement l'analyse de Marx, justement cette analyse de la baisse tendancielle du taux de profit, mais on va dire qu'elle propose un autre regard, sur les causes et les conséquences, surtout de cette baisse tendancielle du taux de profit. Mylène Gollard, comment Rosa Luxembourg se saisit de ce problème-là et pourquoi cela mène finalement à quelque part une pensée de la guerre, pour le dire entre plein de guillemets?
En fait, pour Marx, qui finalement rejoint les classiques, rejoint Adam Smith, rejoint David Ricardo sur la question, c'est que l'appareil industriel rapidement va rencontrer ce qu'on appelle une baisse du taux de profit, qui sera extrêmement difficile de contrer. Et donc c'est ça qui explique les crises du capitalisme, c'est que du fait de la baisse du taux de profit, il est de plus en plus difficile de trouver des capitaux pour investir à nouveau. Et donc, il va développer cette analyse dans livre 1, livre 3 du Capital. Sauf que dans livre 2 du Capital, en fait, qui sont ces brouillons mis en forme par Engels après la mort de Marx, dans livre 2, il va exposer des schémas de reproduction du Capital où il montre comment évoluent les différents secteurs de production. Et même lui, on voit dans ces brouillons qu'il observe qu'il y a comme des difficultés qui pourraient peut-être provoquer des problèmes de surproduction. En plus de la baisse du taux de profit, donc du côté de l'offre, on aurait des problèmes de surproduction du côté de la demande. Et en fait, cette question-là n'a pas forcément été développée. On sent qu'il se confronte à... Il y a des difficultés, finalement, dans cette accumulation du capital liée à ces problèmes de surproduction. Et Luxembourg va, en 1913, essayer de développer ces schémas dans son ouvrage, L'accumulation du capital. Et ces schémas l'amènent à démontrer, donc mathématiquement, et à expliquer que les schémas de reproduction sont inéluctables. C'est que les revenus générés à l'année T-1 sont insuffisants donc par rapport à l'accumulation qui augmente toujours plus de l'année en cours. Donc elle va démontrer ça. Et donc pour elle, il y a différentes solutions. La première solution, celle sur laquelle elle va le plus insister et développer dans l'accumulation du capital, c'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme parce que ça permet donc d'écouler les marchandises excédentaires dans les pays qu'on va appeler donc de la périphérie.
Oui, pour qu'on comprenne bien, Mylène Goller, c'est l'idée de dire que s'il n'y a pas assez de demande à l'intérieur de nos frontières nationales, on va aller la chercher ailleurs. C'est ça, cette fameuse périphérie dont parle Rosa Luxembourg.
C'est ça, c'est que cette périphérie, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine, l'Afrique, qui, du fait d'une non-industrialisation, ou souvent une désindustrialisation dans le cas de l'Inde, va faire que ces pays vont importer massivement des produits anglais, des produits français, et vont permettre d'écouler ces excédents de production donc, qui viennent directement d'Europe. Et donc elle va développer cette question-là, donc, et aujourd'hui ça a été largement étudié. On se rend compte qu'au XIXe siècle, on a quasiment la moitié de la production industrielle de l'Angleterre qui sort vers ce qu'on appelle la périphérie, donc Asie, Amérique latine, Afrique.
Sachant Mylène Goller, qu'il faut préciser ça, parce que là on a finalement un premier aperçu de la façon dont se transforment les relations internationales effectivement dans ce premier quart du XXe siècle, mais c'est aussi l'analyse qu'en fournit Rosa Luxembourg, c'est que aller chercher ces périphéries, encore une fois, ça ne se fait, c'est pas un processus naturel. Selon Rosa Luxembourg, ça se fait aussi dans une certaine violence. En fait, on ne met pas en marché des économies qui n'étaient pas auparavant sans une forme d'acculturation, sans une forme de violence. Ça aussi, ça participe à une forme de guerre et de conflit, donc.
Ouais, donc il y a deux formes de conflits. Donc il y a des conflits déjà entre pays impérialistes,
hein, entre puissances entre elles pour s'accaparer le marché.
On voit entre le Royaume-Uni et la France, entre la France et l'Allemagne, même entre le Royaume-Uni et la Russie. Donc à l'époque en Asie centrale, donc on a toute une série de conflits entre États impérialistes, donc qui sont développés par elles. Mais effectivement, on a une violence au sein même des territoires. Et cette violence va faire qu'on a un bouleversement des sociétés africaines, latino-américaines, asiatiques qu'elle va largement documenter. Et ces bouleversements vont poser aussi un problème, c'est que en intégrant le capitalisme, en absorbant donc ces marchandises excédentaires, ces pays vont progressivement s'intégrer au système et développer eux-mêmes leur propre production industrielle. Et donc pour elle, donc c'est ce qu'elle va montrer dans l'accumulation du capital, c'est que dans un premier temps, ces pays peuvent servir à écouler ces marchandises excédentaires, mais rapidement, cette